Bon matin, bon matin! Bienvenue aux voix de service. Nouvelle voix ce matin, mais oui, Jean-Sébastien Laliberté, en semi-remplacement de Claude Blas, qui est absent aujourd'hui. Nous, deux fidèles collaborateurs, Monsieur Serge Hamelin et Monsieur Roger Roy, bon matin messieurs.
Bonjour.
Bon matin Jean-Sébastien, nous sommes surpris de vous entendre annoncer le début d'émission, c'était préparé.
Nous, oui, oui,
et
c'est
là,
ça.
Ben, bravo, mais merci, ça nous fait ça de moins à dire. Hein Roger?
C'est
merveilleux. Mais je vous cède immédiatement la parole messieurs.
Hey, Roger, économisons un peu notre salive.
Oui. Oui, Roger, nous nous retrouvons tous les deux.
C'est ça.
Comme au début, il y a quelques siècles.
Ça fait,
te souviens-tu?
Ça fait un certain temps, n'est-ce pas?
Ouais, déjà.
Hein? Oui, c'est ça. On accumule, puis on ne peut
temps...
même plus compter.
Non.
On ne sait plus. Bon. Est-ce qu'on va parler de quelque chose aujourd'hui?
Ben, moi, je vais vous parler dans la revue Protégez-vous. Ça y est, j'ai perdu la page. Je vais vous parler des cheveux.
Oui,
la
bon.
Perte des cheveux.
Bon.
Hein?
Pourquoi vous me regardez comme ça?
Ah, mais non, je regarde mon... Regarde. Alors, la perte des cheveux, et je vais vous parler aussi des meilleurs produits de l'année dans la revue Protégez-vous.
Ouais. Bon, moi, je vais vous parler, il y a un article assez long, je vais le faire en deux tranches, « Les chiens en or de Mira ». C'est un article de sélection de Reader's Digest. Mais aussi, je vais vous parler d'une autre question qui, celle-là, est assez humoristique. En 2011, Serge, l'UNESCO a décidé que l'année serait celle de la chimie. En 2013, c'était l'année de la coopération dans le domaine de l'eau. Mais qu'en est-il de l'année 2018?
Ben oui, qu'en est-il?
C'est quoi le thème de l'année 18?
Je ne sais pas, je sens que vous allez me le dire.
Je vous le dirai un peu plus tard, à la fin de la première demi-heure.
Vous faites languir.
Alors, on y va de ce texte de Harold Gagné qui paraît dans l'édition du mois de mai du sélection de Reader's Digest, « Les chiens en or de Mira ». Un hurlement résonne au bout d'un long corridor de béton du centre jeunesse de Chambly. Aussitôt, des agents de sécurité se précipitent vers cette section fermée qui accueille des adolescents jugés dangereux. Ils vont encore une fois devoir immobiliser Alexis, un gaillard de 14 ans en état de crise perpétuelle. Les éducatrices de la DPJ et les agents, auxquels il s'en prend physiquement, sont à bout de ressources. Mais Caroline Légaré, une intervenante en trouble de comportement chez les jeunes en difficulté, a sa petite idée pourquoi ne pas le mettre en présence de son chien Mira, spécialement entraîné pour intervenir à la DPJ. La rencontre a lieu quelques jours plus tard dans un salon du centre. Dès qu'il aperçoit Nana, une petite boule de poils noirs de 2 ans, c'est le coup de foudre. L'adolescent affiche un large sourire et devient doux comme un agneau. La chienne avance vers lui, joyeuse, puis se tourne sur le dos, les 4 pattes en l'air et se laisse flatter. Ravie, Caroline Légaré propose au garçon de voir Nana à chacune de leurs rencontres, tant et aussi longtemps qu'il s'engage à demeurer calme en sa présence. Alexis n'a plus jamais fait de crise quand le chien était là. C'est Noël Champagne, psychologue de la Fondation Mira, qui, en 2016, a repris cette idée de former des chiens pour offrir du soutien émotionnel à des jeunes en détresse. D'autres organismes le faisaient déjà avec d'ex-militaires souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Le Centre jeunesse de la Montérégie est le premier au Québec à compter sur les services de cette assistante à 4 pattes. Nana est toujours accompagnée de Caroline Légaré ou de Danielle Proux, agente de relations humaines à la DPJ. Ses talents sont multiples. J'ai vu un enfant en difficulté qui refusait depuis des mois de se confier à une travailleuse sociale parce que ses parents lui avaient dit de s'en méfier, tout raconter à Nana, oubliant l'éducatrice qui se tenait près de lui, raconte Danielle Proux. Les enfants de la DPJ ont souvent été battus, agressés et victimes de négligence. Il est difficile de reconstruire des liens... Pardon. Je parle de chien, mais le chat est là.
Ben oui, franchement...
Il est difficile de reconstruire des liens avec les adultes. Nana me donne l'amour qui m'a manqué, explique timidement Steven, âgé de 16 ans. Lorsqu'il a fondé Mira en 1981, Éric Saint-Pierre était loin de se douter de l'ampleur qu'allait prendre l'organisme. Ce fils de cultivateur entraînait alors des chiens de garde. Et puis une travailleuse sociale de l'Institut Nazareth et Louis Braille l'a contacté. Une personne aveugle avait des problèmes avec un chien qui lui venait de Floride. À l'époque, explique-t-il, les cheveux en broussaille et le regard vif, les chiens guides ne comprenaient pas les ordres en français parce qu'ils étaient dressés par des Américains. C'est comme ça qu'est née la vocation de Mira, donner des chiens qui voient à ceux qui ne voient pas. Dès le départ, Éric Saint-Pierre se met dans la peau des non-voyants, identifie les défis qu'ils doivent surmonter pour se déplacer dans la rue et le transport en commun et décide de former des chiens qui répondront mieux à leurs besoins. Il trouve en Noël Champagne, alors psychologue à l'Institut Nazareth et Louis Braille, un complice avec lequel poursuivre la route. On apprenait aux non-voyants à se déplacer, à s'orienter avant d'avoir leur bête, ce que ne faisaient pas les Américains, rappelle ce dernier. Les chiens ont ainsi moins d'automatisme et forment une équipe avec leur maître. Plus de 3000 chiens guides ont ainsi été formés depuis 1981 et 300 naissent chaque année à la pouponnière de Sainte-Madeleine, en Montérégie, descendants de 15 mâles et 50 femelles de reproduction triés sur le volet pour leur caractère et leur génétique. Contrairement aux Américains qui utilisaient surtout des bergers allemands, la Fondation Mira a d'abord élevé des labradors au tempérament plus doux, plus docile et qui aiment être proches des humains. Mais comme ces animaux souffraient parfois d'épilepsie ou d'anomalies de la hanche, on les a croisés avec des bouviers bernois pour donner le fameux labernois. Dès l'âge de 8 semaines, les chiots sont placés en famille d'accueil pour se familiariser avec les humains. Un an plus tard, ils reviennent à la Fondation Mira pour être évalués et entraînés au maximum 1 heure par jour. Le chien pour non-voyants subit la préparation la plus longue, 6 mois, et la plus coûteuse, c'est-à-dire 42 000 $. C'est Christian Charlin, un aide-entraîneur assistant qui a perdu la vue étant jeune, qui évalue le comportement des chiens dans de nombreuses situations. Les animaux vont ensuite partager la vie de leur nouveau maître 24 heures sur 24 pendant tout le mois que dure l'apprentissage des chiens guides au centre de formation de la Fondation à Sainte-Madeleine, en Montérégie. Depuis 1986, j'ai eu 6 chiens Mira, dit l'aide-entraîneur de 50 ans. L'animal nous enlève énormément de stress en gérant lui-même les obstacles et en prévenant les dangers, ce que je ne pouvais pas faire quand j'avais seulement ma canne blanche. Les chiens qui vivent en moyenne 12 ans ont droit à une retraite bien méritée dans une famille d'accueil après quelques 8 ans de travail. 3 chiens sur 10 ne répondent pas à nos critères rigoureux, explique Noël Champagne. Ils sont donnés à des personnes qui n'ont pas de handicap. La liste d'attente est longue. À défaut de devenir un des 40 chiens guides attribués annuellement aux non-voyants, 70 à 80 d'entre eux porteront assistance à des personnes souffrant de différents handicaps physiques. On a vu certaines de ces personnes en début d'article. Nous en verrons d'autres de ces personnes qui sont aidées par les chiens Mira, mais dans la seconde partie de notre émission.
Alors, avez-vous des problèmes de cheveux? Perdez-vous vos cheveux, et surtout vous, mesdames, car dans la revue Protégez-vous, on en parle abondamment. On parle de la perte des cheveux, qui n'est pas juste l'affaire des hommes. Non. Les femmes aussi en souffrent, mais différemment. Et mesdames, voici ce qu'il faut savoir sur les traitements qui vous sont offerts. Alors, je vais vous parler de la perte des cheveux et de tout ce qu'on y dit dans cette chronique. Oui, c'est merveilleux. OK. Ça va être probablement le verglas qui me fait...
Bon. C'est un peu gelaudé.
Il y en a qui perdent des cheveux, moi je perds le fil. Alors, les causes, je vais vous parler des causes de l'alopécie. Ah, oh, ça, vous ne saviez pas ça, vous?
Non.
Les shampoings et les lotions capillaires, hein, tous les produits là, qu'on va utiliser pour empêcher la perte des cheveux, les suppléments, le minoxidil, qu'on appelle communément la Rogaine. Pour nous, messieurs, c'est le finastéride, qu'on appelle communément le Propecia. Vous avez entendu parler de ça, le propétion? Non.
Pas du tout.
J'écoute. Ben non, vous avez, j'écoute. Pas, vous avez tous vos cheveux. Bon. Alors, et puis il y a les traitements médicaux, le traitement au laser, les injections de plasma riches en plaquettes. Il y a la greffe de cheveux. Hein?
Oui,
ça. Oui. Ensuite, il y a le camouflage. Il y a la prothèse capillaire. Et on va terminer par la poudre magique.
Ah, bah tiens.
Oh, c'est pas la poudre de perlimpinpin.
Non.
Bon, alors, on commence. Alors, moi, je vais avoir deux moments dans l'émission pour vous parler au début et puis un peu vers la fin. Hein. On va commencer avec la moitié de l'article. Hein.
Ouais.
Okay. À 48 ans, Nathalie, qui est un prénom fictif, a perdu beaucoup de cheveux. Alors, je remarque que ma queue de cheval s'est amincie ces derniers mois. Si ça s'accentue, je songe à recourir à une greffe, se dit-elle.
Oh.
Elle constate aussi que les hommes ont tendance à tourner la calvitie à la blague. Oh, elle, ça ne la fait pas rire du tout. Le docteur Alain Sabourin, qui pratique des greffes de cheveux depuis 26 ans, confirme cette différence. Les femmes qui viennent me consulter sont beaucoup plus affectées psychologiquement que les hommes. Tous les jours, j'en vois qui sont en larmes dans mon bureau. Pour elles, c'est une atteinte à leur féminité. L'alopécie, ou perte de cheveux. La plus courante chez la femme, comme chez l'homme d'ailleurs, est l'alopécie androgénétique. Rien de moins. Comme son nom l'indique, elle est d'ordre héréditaire, plus d'être irréversible. Et la grande responsable, c'est l'enzyme 5-alpha-réductase qui stimule la production de la dihydrotestostérone, une hormone dérivée de la testostérone. On en apprend des choses ce matin. Les femmes atteintes de cette forme d'alopécie auraient un taux de testostérone légèrement plus élevé que la moyenne, dit Daniel Kirouac, pharmacien et adjoint à la direction de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. L'affection se manifeste davantage après la ménopause, car avant, l'action de l'œstrogène contrebalance celle de la testostérone, explique la dermatologue André Mathieu Serra sur son site Internet. Contrairement aux hommes, qui se retrouvent la plupart du temps avec le dessus du crâne complètement dégarni, la majorité des femmes ont plutôt une chevelure clairsemée sur l'ensemble de la tête. S'il n'y a pas de traitement miracle pour venir à bout de l'alopécie, il existe des solutions pour la ralentir ou la camoufler. Et voyez ce que les produits cosmétiques, la médecine esthétique et les salons de coiffure ont à offrir aux dames. Les causes de l'alopécie. Alors, si vous perdez vos cheveux de façon anormale, consultez tout d'abord un médecin. Pas un électricien, là, un médecin, qui pourra vous poser un diagnostic. Car plusieurs facteurs peuvent expliquer une importante perte de cheveux. Et parmi les plus courants, une carence en fer, fréquente chez les femmes, et un dysfonctionnement de la glande thyroïde, de même que la prise de certains médicaments, comme ceux contre l'épilepsie, l'hypertension ou le cholestérol. Le problème peut également survenir à la suite d'un accouchement, d'un choc émotif, d'une intervention chirurgicale ou de traitement de chimiothérapie. Ça, on le sait. Et dans tous ces cas, on parle de chute passagère, soit d'une alopécie de type effluvium télogène. Vous allez vous rappeler de ça, vous, cette semaine?
Ces choses-là sont bien dites.
Le docteur Sabourin, oui. Normalement, les cheveux repoussent lorsque la situation revient à la normale ou que la patiente cesse de prendre le médicament en cause. Et par ailleurs, certaines maladies auto-immunes apparentées au lupus peuvent aussi provoquer la perte de cheveux, d'où l'importance de consulter un médecin. Les produits maintenant, les shampoings et les lotions capillaires. Chez le coiffeur, dans certaines cliniques spécialisées, en pharmacie et en ligne, vous trouverez des shampoings, des lotions capillaires et des sérums censés nourrir, revitaliser ou fortifier les cheveux. Faut-il croire leurs allégations, Roger? Tout dépend de vos attentes, avertit Daniel Kirouac.
Je suis d'un scepticisme
Si
modéré.
Vous voulez prendre soin de vos cheveux, les rendre plus brillants ou soyeux et leur donner du volume, ils sont certainement indiqués. Quoi? Mais si vous perdez une grosse poignée de cheveux tous les jours, ils ne vous seront d'aucune utilité. Il poursuit même, ce sont des solutions exclusivement cosmétiques qui n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse démontrant qu'elles peuvent favoriser la pousse des cheveux ou empêcher leur chute. C'est d'ailleurs la conclusion que tirait en janvier 2014 notre homologue français, le magazine Que Choisir, de son analyse de 17 produits anti-chute. Et le coût peut varier entre 25 et 400 $. Voilà. Ensuite, on va continuer tantôt avec les suppléments et le Rogaine et le Propecia. C'est bon?
Très bien.
Attendons.
Intéressant.
Attendez.
J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi.
Où est ma tête? Tel est le titre de la pièce de Pink Martini qu'on vient d'entendre.
Oh, c'est très joli, c'est très joli. Dans l'actualité du mois d'avril 2018, année internationale de quoi? 2017 était l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Vous ne l'avez pas célébré? Vous vous reprendrez en 2019, année internationale des droits des peuples autochtones. Ou en 2024, année internationale des camélidés. Et 2018, c'est l'année de rien. L'UNESCO n'a rien décrété pour 2018. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Voici quelques-unes des options qui ont été étudiées. Ça, c'est un texte fantaisiste signé par Mathieu Charlebois. Alors, il divise son papier en trois rounds et une finale. Premier round, c'est comme aux éliminatoires au hockey. Non? Alors, on jette toutes les idées sur papier. Alors, on a considéré que 2018 soit l'année de l'intelligence artificielle, c'est un domaine d'avenir. Alors, on avait face à l'intelligence artificielle l'année des années internationales. L'année des années internationales, on a dit, ben, c'est un peu trop méta, là. L'année des années, ça fait pas beau. On va retenir pour le moment l'année de l'intelligence artificielle. Mais Stephen Hawking et Elon Musk ont peur. Les robots s'en organiseront eux-mêmes quand ils auront pris le contrôle. On a pris la décision, c'est dans le deuxième round. Autre mise face à face, l'année internationale de conscientisation à l'importance de passer la soie dentaire. Parce que, dit celui qui a fait proposer l'idée, mon dentiste n'y est pas parvenu en 20 ans, mais je pense qu'une année internationale n'y parviendra pas. L'autre année qu'on voulait aussi retenir, c'était l'année des bonnes nouvelles. Je pense que Serge aurait probablement été d'accord.
Alors, ça, je suis d'accord.
Puis on a dit, on va peut-être la garder, l'année des bonnes nouvelles, la conscientisation de l'importance des passés de la soie dentaire, on va l'éliminer. Ou encore, l'année internationale des médias sociaux. On a proposé l'idée sur les médias sociaux et on a reçu des menaces de mort, donc on va éliminer cette option. On a aussi proposé le thème, celui-ci est absolument important, de la moitié de canne de pâte de tomate qu'on n'utilise jamais et qui finit par moisir dans le frigo. Alors on s'est dit, c'est vraiment un combat universel, on va retenir cette idée-là pour le moment. Autre idée, l'année internationale de ce que vous voulez. Une année dont vous êtes le héros? Mais pourquoi pas? On va retenir l'idée pour le moment. Autre idée, l'idée des l'année internationale des légumineuses, hein? On l'a déjà fait en 2016. Aurait-on fait le tour du concept des années internationales? Alors, celui-là, on ne retient pas. Ensuite, au round 3, on a décidé de choisir l'année des bonnes nouvelles. On avait choisi l'année des bonnes nouvelles, mais quand, en y repensant comme il faut, on s'est dit, l'année des bonnes nouvelles, en parler tant que Trump est président, vraiment, est-ce qu'on va retenir cette idée-là? L'année de la moitié de canne de pâte de tomate qu'on n'utilise jamais et qui finit par moisir dans le frigo, tant et tant de concentrés perdus en vain, une hécatombe de tomates. On va garder l'idée. Ça pourrait être bon, cette idée-là. L'idée internationale de ce que vous voulez, s'il y a une chose que la démocratie nous a apprise, se sont-ils dit, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de jugement. Là, on va éliminer celle-là. Donc, il en reste deux. L'année internationale des bonnes nouvelles ou l'année internationale de la moitié de canne de pâte de tomate qu'on n'utilise jamais qui finit par moisir au frigo. Alors, pour l'année des bonnes nouvelles, parler des bonnes nouvelles tant que Trump est président, on l'a déjà dit, ça, on va l'éliminer. Puis l'année des cannes de pâtes, la moitié de cannes de pâtes de tomates, là, ça risque pas d'enlever de la valeur à l'année internationale des droits des peuples autochtones qui va suivre? Une excellente question. Donc, on s'est dit, on est peut-être mieux de pas en avoir de l'année internationale. C'est pour ça que c'est humoristique, je le répète. Il se veut humoristique. C'est Mathieu Charlebois qui nous a pondu ce texte. Paraît dans l'actualité. We'll be right back. Alors, nous plongeons dans les brèves. Depuis l'automne, 18 000 vaches et bœufs albertains sont nourris de maïs et d'orge contenant un additif alimentaire pour moins roter. Cette expérience, menée jusqu'à la fin de 2018 par la société pharmaceutique néerlandaise DSM, vise à terme à lutter contre le réchauffement climatique. Le méthane, produit par la digestion des bovins, est à l'origine de 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais contrairement aux idées reçues, c'est surtout par leurs éructations et non par leur flatulence qu'est émis ce gaz au potentiel de réchauffement 25 fois plus puissant que le CO2. Qui l'eût cru?
Voulez-vous que je vous dise des choses? Hein? À propos des événements marquants dans le commerce de détail et d'autres choses. En 1981, IBM commercialise le premier ordinateur personnel. C'est en 1981. Oui. PC pour Personal Computer, le 5150. C'est là que ça a commencé. Là.
Oui.
Sérieux. Là.
Oui, oui.
En 82, une grave récession s'amorce au Canada. Les taux d'intérêt sur les hypothèques atteignent 20 % Les consommateurs se rabattent sur la carte de crédit. Mm-hmm. En 1983, Motorola démocratise le téléphone cellulaire. C'est là que ça a commencé. Au coût de 3 500 $.
Quelle idée!
Et le mot Internet entre dans le vocabulaire. Oui, monsieur.
Une petite dernière.
Allons-y.
Sèche tes pleurs, des chercheurs du géant Bayer travaillent depuis des années, cette fois ça y est. L'oignon qui ne fait pas pleurer vient d'être créé. Issu du croisement de différentes variétés d'oignons, le Sunion, c'est son nom, sera commercialisé aux États-Unis en mars. On ne le verra toutefois pas au Canada avant 2019. D'ici là, le port des lunettes de natation demeure votre meilleure option.
Ben, moignons donc!
Quelle excellente nouvelle! Et sur ce, messieurs, on se dirige vers la pause. On revient dans quelques instants avec d'autres articles et la suite des articles de cette première partie d'émission.
La machine à aimer, on répare ça comment? tu me demandes. La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
Tu me demandes. La machine à aimer, on répare ça comment?
Le sang prend plein la gueule.
La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
Tu me demandes.
Re-bienvenue à l'émission Les Voix de Service. On vient d'entendre Tristan Malavoie avec la pièce La machine à aimer. Messieurs, qui poursuit?
Et nous continuons avec la perte des cheveux. Ça ne s'arrête pas là, la perte des cheveux, parce que de 29 à 38% des femmes de 70 ans et plus perdent leurs cheveux en raison de facteurs hormonaux et génétiques. Alors, si vous n'avez pas encore 70 ans, ben, vous savez ce qui peut vous attendre. 29 à 38%. Bon, alors, il y a des suppléments. On a parlé tantôt des shampoings entre 25 et 400 $ qui finalement ne donnent rien. Et les suppléments. Alors, certains suppléments comme NutriCap cheveux et ongles des laboratoires Yves Pomeroy et Alpha Régule de Norgil sont approuvés par Santé Canada et portent un numéro de produit de santé naturelle. Le premier produit, qui renferme notamment de la prêle, et des vitamines du groupe B peut aider à la croissance et au développement des cheveux, comme l'indique la base de données sur les produits de santé naturelle homologués de Santé Canada. En revanche, ce type de produit ne peut alléguer qu'il renverse l'alopécie androgénétique, c'est-à-dire la perte des cheveux. Le second produit, Alpha Régule, contient des ingrédients végétaux comme de la bourrache et de l'ortie, qui régule l'enzyme 5-alpha-réductase impliquée dans l'alopécie androgénétique. Et c'est le seul produit homologué par Santé Canada qui peut prétendre aider à diminuer la chute de cheveux. De l'avis de Daniel Kirouac, ces suppléments ne font toutefois pas de miracle et les gens qui utilisent ce genre de produit semblent avoir de plus beaux cheveux. Par contre, je n'ai jamais rencontré personne qui a réglé son problème de calvitie grâce à eux. Et le coût est de 5 $ à plusieurs dizaines de dollars pour ces suppléments. Le minoxidil, on appelle ça la Rogaine ou le Rogaine, le seul médicament en vente libre ayant démontré une certaine efficacité pour favoriser la pousse de cheveux, est le minoxidil commercialisé sous le nom de Rogaine. Cependant, ne vous attendez pas à retrouver votre chevelure d'antan si vous l'utilisez, bien que le fabricant prétende que son produit peut revitaliser les follicules pileux, stimuler la repousse et réactiver le cycle de croissance. Et dans les faits, le docteur Sabourin et le pharmacien Daniel Kirouac observent des résultats souvent décevants. Oui. Les nouveaux cheveux sont fins, fragile et terne. Et la version destinée aux femmes à 5% de minoxidil est offerte sous forme de mousse qu'on applique sur le cuir chevelu. Elle peut occasionner certains effets secondaires comme des maux de tête ou une irritation du cuir chevelu, précise le docteur Sabourin. Un autre désavantage de Rogaine, lorsqu'on cesse de l'utiliser, on en tire plus de bénéfices. C'est donc un traitement à vie. Bon. On n'en tire plus les bénéfices. Pas plus, mais plus les bénéfices. Alors, le coût est de 110 $ pour environ 4 mois de traitement. Et puis, mais c'est bien, hein, ça nous éclaire. Hein? On pensait utiliser des produits, mais là, on nous dit que finalement, ça vaut pas. Hein? Et il y a le finastéride. Ça, les messieurs connaissent ça. Qui communément s'appelle Propecia. Propecia. Il existe un autre médicament, le Propecia, vendu sous forme de comprimé, mais uniquement sur ordonnance. Son ingrédient actif est le finastéride, un inhibiteur de la dihydrotestostérone, c'est-à-dire l'hormone responsable de la chute de cheveux. Et selon les spécialistes interrogés, ce produit donne de meilleurs résultats que le Rogaine, mais il est réservé aux hommes, car il peut causer des malformations fœtales. Les femmes qui ne sont plus en âge de procréer peuvent-elles l'utiliser? Le produit n'est pas approuvé par Santé Canada pour cet usage, mais dans la pratique, il arrive que les professionnels le prescrivent à des femmes ménopausées, indique le docteur Sabourin. Et c'est le cas du docteur Yves Hébert, spécialisé en médecine esthétique depuis 20 ans et qui pratique des greffes de cheveux. Ça fonctionne assez bien pour les candidates qui sont atteintes d'alopécie androgénétique, explique-t-il. Et comme elles ne subissent pas les effets secondaires propres aux hommes, chez qui le médicament interfère avec la testostérone, ce qui peut entraîner une diminution de la libido et des problèmes érectiles, par exemple, on peut leur prescrire des doses plus fortes qu'à ces derniers. Et par contre, si la patiente cesse le traitement, la calvitie reprend. Ah, ça coûte entre 55 et 70 $ par mois, selon que vous achetez le générique ou l'original. Le médicament n'est remboursé ni par la régie de l'assurance maladie, ni par les régimes d'assurance collective. Et ensuite de ça, il y a les traitements médicaux. Il y a le traitement au laser, les injections de plasma riches en plaquettes, la greffe de cheveux, que connaît très bien notre ami Guy Lafleur. Mm-hmm. Le camouflage, c'est-à-dire la moumoute, on appelle ça la prothèse capillaire. Mm-hmm. Et finalement, la poudre magique. Oh!
Est-ce qu'on la garde pour la fin?
Je pense qu'on va la garder pour la fin. Ça va nous tenir en haleine. C'est bon? En avez-vous assez, non, vous, non, sur les cheveux? Est-ce que je peux continuer? Oui? Encore un petit peu. On va commencer par le traitement au laser, OK? Les traitements présentés dans cette section doivent être effectués par un médecin ou sous sa supervision. Relevant de la médecine esthétique, ils ne sont pas remboursés par la RAMQ et ce, même s'ils font suite à une chimiothérapie. Le traitement au laser, ce soin se donne en clinique et durant le traitement, les patientes portent un casque qui émet des rayons infrarouges venant stimuler le cuir chevelu. La biostimulation au traitement au laser augmente la vascularisation au niveau des follicules pileux, ce qui entraîne un meilleur flot sanguin et une meilleure oxygénation. Cela permet de stimuler la pousse, explique le docteur Sabourin. Est-ce que ça donne de bons résultats? Les cheveux existants seront plus gros et plus forts, mais le traitement n'en fait pas pousser de nouveaux. Ah ah! Combiné au Rogaine, il peut donner des résultats intéressants, quoique limités. Et ce n'est pas aussi spectaculaire et franc qu'une greffe de cheveux, conclut-il. Là, c'est sûr. Hein? Si vous optez pour ce traitement, vous devez vous armer de patience. Il s'étale sur 12 mois à raison de 2 visites par semaine, au cours des 2 premiers mois, 1 fois par semaine les 7 mois suivants, et finalement 1 fois tous les 15 jours les 3 derniers mois. Et par la suite, il faut retourner en clinique 1 fois par mois pour un traitement d'entretien. Si vous cessez les traitements, les effets disparaissent. Donc, ça coûte combien tout ça? Environ 2000 $ pour les 12 premiers mois, puis 50 $ par visite pour les traitements mensuels subséquents, soit 600 $ par année. On arrête là.
Bon, nous revenons donc au texte de Harold Gagné qui paraît dans la sélection du Reader's Digest du mois de mai, Les chiens en or de Mira. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu comment a été fondée Mira pour aider les non-voyants. L'institution existe d'abord et avant tout pour guider les non-voyants, mais à défaut de devenir un chien guide pour non-voyants, ces chiens, bien entraînés, porteront assistance à des personnes souffrant de différents handicaps physiques. Ce programme a été implanté au début des années 1990 pour aider les personnes qui souffrent d'un handicap physique. 100 seront accordées à des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Depuis 2003, plus de 600 jeunes ont pu en bénéficier dès l'âge de 8 ans. Les études démontrent chez eux une réduction du stress, l'amélioration du sommeil et la réduction des crises. Par exemple, Victor Ball avait 11 ans lorsqu'il est devenu le premier enfant autiste du Québec à se rendre à l'école avec un chien Mira. Il en a aujourd'hui 18 et poursuit ses études en génie mécanique au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Il est toujours accompagné du même animal. Sans Kwanza, je serais probablement mort, j'avais des idées suicidaires. C'est ce qui a poussé sa mère, Stéphanie Larose, à l'emmener chez un psychiatre quand il a eu 5 ans. Il a déjà tenté de se taillader le poignet et s'immoler par le feu en utilisant une allumette. Il disait qu'il avait des dragons dans la tête, qu'il voulait tuer quelqu'un. L'arrivée de Kwanza l'a transformé. Plus de crise ni d'idées noires. Quand je deviens anxieux, Kwanza le ressent. Elle vient vers moi et me donne des coups de museau. Je lâche alors mon activité quelques minutes pour flatter Kwanza et lui donner des câlins. La tension diminue et je peux ensuite reprendre mes activités. Kwanza est devenue mon ombre. Elle fait partie de moi. « Ces chiens m'ont redonné vie », affirme pour sa part Linda Marie Conway. La dame de 58 ans a frôlé la mort en 1997 lorsqu'elle a été frappée par la foudre. Son cerveau, ses nerfs et ses muscles ont été touchés. À la fin de sa réadaptation, qui a duré 3 mois, on l'a adressée à Mira. Depuis 1993, de nombreux chiens épaulent le travail des ergothérapeutes et des physiothérapeutes dans plusieurs centres de réadaptation du Québec. D'autres ont élu domicile chez des personnes vivant avec un handicap physique. Son premier chien, Wilfred, qui l'a accompagné 10 ans, tirait son fauteuil et lui a réappris à marcher. Il se tenait devant moi pour que je puisse saisir son harnais et faire un pas à la fois. Pudding, le troisième, me lit comme un livre ouvert et ressent immédiatement quand je suis étourdi. Il se place devant moi pour éviter que je tombe. Avantage collatéral non négligeable, ces chiens permettent souvent à ces malades de briser l'isolement. Les gens se sentent parfois mal à l'aise avec les personnes handicapées, mais le chien les attire et il me parle. Les chiens de Mira travaillent aussi avec les policiers. Les services de police de Sherbrooke et de Terrebonne en possèdent et la Sûreté du Québec a accueilli dans ses rangs Sunday et Kevlar. En septembre 2017, c'est Kevlar qui, avec son maître, l'enquêteur Simon Guérard, est venu réconforter un garçon de 6 ans qui avait été enlevé par son père, Hugo Fredette, accusé de 2 meurtres, dont celui de la mère de l'enfant. Sans entrer dans les détails, l'enquêteur jure que son chien a ce jour-là été d'un grand secours pour l'enfant. Cette équipe de choc a également réussi à faire témoigner devant le tribunal un autre garçon de 6 ans dans une histoire de violence à la garderie. Lors des rencontres préparatoires, le petit s'est mis à pleurer en entendant sa première déposition captée sur vidéo 3 ans plus tôt. Ses parents souhaitaient l'arrêt des procédures pour ne pas traumatiser leur fils, explique Simon Guérard. Nous leur avons alors proposé l'intervention de Kevlar. Lors du procès, l'enfant a senti le réconfort du chien près de lui et n'a pas pleuré en entendant à nouveau sa voix décrivant les abus corporels qu'il avait subis. La Fondation Mira aimerait aller plus loin en proposant bientôt des animaux à des victimes d'agressions sexuelles et à des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Une expérience est en cours à la Maison du Père de Montréal, un centre pour les itinérants. Argon, un Libernois, y a élu domicile et déambule au milieu de ces écorchés de la vie. Il les accompagne régulièrement chez le médecin. Sans lui, ils refuseraient d'y aller car ils ne font plus confiance à personne. « Je parle plus avec le chien qu'avec les humains », constate Robert Arcan, qui vit la plupart du temps dans la rue. Il donne de l'affection et de l'importance. Éric Saint-Pierre, le fondateur de Mira, ne croyait jamais faire autant de bien avec ses chiens et sent le devoir de poursuivre sa mission. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, dit-il, en citant Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Apprivoisé, pardon.
Apprivoisé, c'est bon, hein?
Ouais, improvisé, j'improvise beaucoup. Là. Alors, c'est un texte, c'est le texte que je voulais vous lire. Je pense que c'est important de le lire au complet. Ça paraît dans la sélection du Writer's Digest du mois de mai par Harold Gagné. Do
Alors, écoutez, on continue. On n'a pas encore trouvé la solution pour les cheveux. Hein?
Ben non, il n'y en a pas.
Alors, ben là, il n'y en avait pas, mais est-ce qu'il y en aura? Nous saurons dans les prochaines minutes. Nous allons terminer dans les prochaines minutes ce reportage sur la perte de cheveux. Alors, on a parlé du traitement au laser. Pas fort, hein? Les injections de plasma riches en plaquettes. C'est la tendance de l'heure, dit le docteur Sabourin. Ce traitement consiste à prélever une petite quantité du sang du patient. De ce sang, on extraira à l'aide d'une centrifugeuse les plaquettes et le plasma qui sont riches en facteurs de croissance. Le médecin réinjecte ensuite l'extrait dans le cuir chevelu du patient afin de stimuler la pousse des cheveux et d'améliorer leur qualité. Les cliniques esthétiques et capillaires mentionnent sur leur site Internet que le traitement est indiqué pour les patients qui en sont à un stade léger à modéré d'alopécie androgénétique. Est-ce que ça fonctionne?
Là est toute la question.
Eh bien, on attend toujours les résultats d'études scientifiques solides, indique le docteur Sabourin, qui offre tout de même le traitement à l'occasion aux patientes qui le réclament. Le docteur Hébert, lui, pratique la technique PRP depuis 2 ans. Quelques études menées sur de petits groupes de personnes montrent une amélioration significative de la qualité des cheveux existants, affirme-t-il. D'autres indiquent que le PRP pourrait aider à réactiver la repousse dans les cas où les follicules ne sont pas inactifs depuis trop longtemps, donc si la calvitie est récente. Est-ce douloureux? Le traitement se fait sans douleur et sans anesthésie si on utilise un dispositif muni d'une aiguille très fine qu'on vous plante dans le cerveau. Oh mon Dieu Seigneur! Et très rapide, explique le docteur Hébert. Par contre, avec une seringue et une aiguille traditionnelle, c'est plus douloureux, ajoute-t-il. Il faut pratiquer une anesthésie locale. Et le coût, c'est de 500 à 800 $ environ par séance. Combien de séances ça va prendre? Il est recommandé de planifier 4 séances, voilà, la première année, puis 1 ou 2 annuellement par la suite et avis pour maintenir les effets. Bon. Alors, allons-y pour la greffe de cheveux. Pratiquée sous anesthésie locale, l'intervention consiste à redistribuer la chevelure sur le crâne afin de créer une illusion de volume. Et comment? En prélevant des cheveux situés à l'arrière de la tête pour ensuite les replanter aux endroits voulus. Et c'est une solution permanente qui donne d'excellents résultats, assure le docteur Sabourin, qui pratique des greffes de cheveux depuis de nombreuses années. Le risque d'infection est minime car le cuir chevelu est extrêmement vascularisé et le rejet impossible car les cheveux proviennent de la tête du patient. Et il ajoute, malheureusement, peu de femmes sont de bonnes candidates à la greffe car la plupart ont la chevelure clairsemée sur l'ensemble du crâne. Elles n'ont donc pas suffisamment de cheveux dans la zone donneuse, c'est-à-dire le derrière de la tête. Et dans son cabinet, à peine 10% des greffes qu'il réalise sont pratiquées sur des femmes. Donc, ce serait sur des hommes. Et le coût, c'est de 3 500 et 10 000 $ selon l'état de la calvitie. Et le traitement se fait en une seule séance.
Oh là là!
Ah, mais c'est pas pire, ça. Ça a du bon sens.
Ça dépend.
Alors, le camouflage. Maintenant, il y a le camouflage. Eh bien, ça, c'est la prothèse capillaire. Certains régimes d'assurance collective remboursent jusqu'à 300 $ des frais engagés pour l'achat d'une prothèse capillaire. Quand même, hein? Alors, certains salons de coiffure et cliniques capillaires proposent aux femmes une solution cosmétique, le volumateur. Oh. Il s'agit d'une prothèse capillaire partielle faite sur mesure à l'aide de cheveux naturels et la texture et la couleur du postiche sont préalablement sélectionnées par une coiffeuse styliste pour s'harmoniser avec vos propres cheveux. Vous n'avez qu'à le déposer sur le dessus de la tête et à le fixer à l'aide de quelques pinces. Il imite étonnamment bien le cuir chevelu, ce qui donne un résultat très naturel, Roger. Voilà du moins ce que nous avons constaté lors d'une visite au salon Les Jumelles à Montréal, un pionnier dans le domaine. Et l'endroit est aussi partenaire de Leucan qui y envoie des jeunes ayant perdu leurs cheveux à la suite d'une chimiothérapie. Le volumateur permet de corriger une perte de cheveux temporaire ou permanente et convient aux femmes dont la chevelure est clairsemée ou à celles qui veulent créer un effet de volume. Il est préférable d'enlever la prothèse au coucher pour éviter qu'elle ne s'abîme en frottant sur l'oreiller. Mm-hmm. Les cheveux peuvent être frisés au fer, colorés ou coupés, bref, comme vous le feriez en temps normal. Il faut laver le postiche environ une fois toutes les deux semaines, préférablement avec un shampoing de bonne qualité, par exemple ce qu'on trouve dans les salons de coiffure. Et le coût de la postiche est entre 1 500 et 2 200 $, et le volumateur a une durée de vie de 2 à 4 ans. Et maintenant, on va terminer par la poudre magique.
Perlipimpin.
Alors, dans certains salons de coiffure et cliniques capillaires, ou encore sur Internet, vous trouverez des poudres camouflantes ou densifiantes. Ah. Ces produits, composés de microfibres de kératine, sont destinés à être saupoudrés sur le cuir chevelu. Chargés en électricité statique, la poudre se lie aux cheveux et les gonfle.
Oh.
Mm-hmm. Et l'effet de volume ainsi créé camoufle le fond de la tête. Plusieurs teintes sont offertes en vue de s'harmoniser avec la chevelure. Pour renforcer la cohésion cheveux-poudre et maintenir la coiffure en place, vous pouvez utiliser un fixatif, lui aussi à base de kératine conçu à cet effet. Le docteur Sabourin estime qu'il s'agit d'une solution de maquillage efficace et économique qu'utilisent d'ailleurs plusieurs artistes.
Oh.
Et le coût est de 30 à 45 $ le format de 12 grammes, environ un mois d'utilisation selon la quantité employée. Et le prix du fixatif varie entre 14 et 20 $. Voilà ce qui termine notre sujet. Sur la perte du cheveu.
Voilà. Moi, je vous dis, je vous lis cette brève qui parle des émoticônes, que je ne connaissais pas, mais c'est dans les réseaux sociaux, là, le petit bonhomme là, qui sourit ou qui est choqué. Là. Il faut faire attention à ces émoticônes. Quand une émoticône, c'est une, sauf féminin, mène en prison, l'interprétation des émoticônes n'est pas toujours limpide et peut même parfois mener devant les tribunaux. Voici trois cas où un juge a dû trancher sur la signification ambiguë de ces caractères. L'an dernier, un couple a utilisé ces émoticônes dans ses négociations par texto avec le propriétaire d'un logement à louer en Israël. Ce dernier, pensant l'affaire conclue, a retiré l'annonce, mais ses futurs locataires ont cessé de lui répondre. Un juge a condamné le couple à payer des dommages d'environ 2 800 $ au proprio, affirmant que les binettes festives et optimistes étaient volontairement trompeuses. Alors, il faut que la bouche aille dans le bon sens, d'après ce que je comprends. En France, un homme de 22 ans a été condamné à 6 mois de prison en 2016 pour avoir texté une émoticône de pistolet à son ex-petite amie. Selon le magistrat, il s'agissait d'une menace de mort matérialisée par l'image. Hein? Le dernier cas, c'est... Je vous dis ce que les émoticônes représentent. D'abord, c'est un point. Puis ensuite, c'est un doigt qui pointe vers une ambulance. Ces caractères envoyés en 2015 sur Facebook ont conduit à l'arrestation de leur auteur en Caroline du Sud. Selon les policiers, il s'agissait d'une menace de voie de fait envers le destinataire du message. Les accusations ont par la suite été abandonnées. Alors faites attention à vos émoticônes.
Eh ben, dis donc. Tantôt, on a abordé les années 80, ce qui s'est produit, hein, l'Internet et à la fin des années 80, les municipalités du Québec instaurent progressivement la collecte sélective des déchets. Ça, c'est à la fin des années 80. Dans les années 90, qu'est-ce qu'on a? On a le gouvernement de Brian Mulroney qui introduit la taxe fédérale sur les produits et services de 7 % à l'époque.
Mm-hmm. Hmm.
En 92, le Canada entre en récession et une loi permet désormais aux magasins d'ouvrir le dimanche. En 92, hein? D'ouvrir le dimanche. Au Québec, Provigo et Métro Richelieu achètent chacun une partie des épiceries Stanberg. Oh, ah, c'est pas jeune, ça, là.
Non, non, non.
En 93, un groupe de jeunes, dont Stephen Guilbeault et Laure Waridel, jettent les bases d'Équiterre. Mm-hmm. C'est le début du commerce équitable et des fameux paniers bio. Oui. En 93. Et ensuite, en 94, le site de commerce électronique Amazon, d'abord une librairie en ligne, est créé et Walmart débarque au Canada en acquérant la chaîne Woolco. Pardon. Et en 97, le pays connaît une deuxième récession en 15 ans. Québec impose une taxe de vente de 8 et 4% selon le type de biens et services. Et Netflix est fondé aux États-Unis.
Eh bien, merci pour toutes ces informations, Serge.
Oui.
Merci également, Roger, pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine avec possiblement notre collaborateur absent aujourd'hui, oui. Claude Blasse. Oui. Bonne journée.
Au revoir. Au revoir.